Lorsqu'un président aborde son deuxième mandat, il essaye de marquer de son empreinte l'histoire du pays et, si possible, l'histoire de la planète. Il y a évidemment, au cours du premier mandat, beaucoup de difficultés, des échecs, des réussites, mais il est évident que les relations avec l'Europe, les difficultés que les États-Unis rencontrent au Moyen-Orient, tout cela explique qu'il soit nécessaire de procéder à des inflexions.
Avec une communauté internationale qui finalement n'avait jamais caché qu'elle était nettement contre un deuxième mandat George Bush, mais quelle que soit sa politique, les Européens le soutiennent ou pas, George Bush a été réélu, donc il va falloir fonctionner avec lui. Et sentez-vous déjà un petit peu cette volonté de redevenir partenaire ?
Oui, on sent cette volonté à deux signes. Le premier, tout d'abord, c'est que George Bush a exprimé l'intention de venir en Europe. Il sera sur le continent européen à la fin du mois de février. Ça veut donc dire qu'il a ressenti le besoin de procéder à un rapprochement avec les nations européennes. Le deuxième signe qui est aussi encourageant, c'est la nomination au département d'État de Condoleezza Rice. Ça n'est pas que Colin Powell ait été un ennemi ou un adversaire de l'Europe, tout au contraire. Mais Condoleezza Rice, par les liens qu'elle entretient avec le président, elle est quand même la conseillère la plus proche de George Bush, a l'intention justement de donner à la diplomatie toute sa dimension.
Et vous ne pensez pas que la Grande-Bretagne, vu sa position par rapport aux États-Unis dans le conflit en Irak, peut jouer un rôle majeur justement en matière de conciliation ?
Oui, la Grande-Bretagne a toujours pour ambition d'être l'intermédiaire entre les États-Unis et le reste de l'Europe. Cela dit, la Grande-Bretagne fait partie de l'Union européenne. Il y a également des contentieux qui existent entre la Grande-Bretagne et certains pays européens. Alors, il est évident que il ne faut pas sous-évaluer l'influence de Tony Blair à Washington, il ne faut pas non plus la surévaluer. C'est-à-dire que Tony Blair, c'est l'allié fidèle, l'allié sur lequel les États-Unis comptent et peuvent compter. C'est celui qui réclame à corps et à cri que les États-Unis tiennent une place plus importante dans le règlement du conflit israélo-palestinien. C'est la Grande-Bretagne qui accompagne les Américains en Irak, c'est-à-dire qu'en fait, elle a beaucoup d'atouts dans son sac, mais en même temps, il y a quand même une spécificité de la diplomatie américaine qui est indépendante des pressions britanniques.
Alors, pour en revenir un petit peu à l'organisation des festivités, donc 3 jours de concerts, balles, feux d'artifice, ces festivités ont un coût. On les évalue à 40 millions de dollars. Alors, bien sûr, les polémiques ne manquent pas. Cette attitude vous étonne ?
Ça ne m'étonne pas. D'abord, c'est une tradition aux États-Unis de faire la fête lorsque le président entame son mandat. Alors, peut-être peut-on reprocher à George Bush de donner encore plus d'éclat, de dépenser encore plus d'argent que ne l'ont fait ses prédécesseurs, surtout à un moment où les États-Unis sont plongés dans la guerre en Irak, à un moment où le monde vient de manifester sa solidarité à l'égard des victimes du tsunami en Asie du Sud-Est. Mais il n'empêche que pour les Américains, dans la culture américaine, ces fêtes ont pour but non pas tellement d'exalter la personnalité du président, mais d'exalter les valeurs démocratiques, c'est-à-dire le passage d'un mandat à l'autre et les conséquences d'une élection au suffrage universel. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est plus la fête de la démocratie que la fête d'une personnalité.